Ok, coupe film.
Alors, donc, au début du troisième pérec, on a démarré la semaine dernière, mais on reprend juste pour savoir de quel sujet on parle. En fait, le sujet du troisième pérec, il va parler des relations entre les morts et les vivants. D'accord ? Est-ce qu'un mort est vraiment mort ou non ? Tanya, on a vu dans une braïta, un texte de Halakha, Lo yaler Adam bebet akvarot, un homme ne doit pas marcher dans un cimetière ou tfilin berosho, en ayant les tfilin à sa tête, sefer Torah bizro, ou un sefer Torah à son bras, vekore, et même s'il le lit. D'accord ? Pourquoi ? Vimoseken, parce que s'il fait ça, over, il transgresse, mishum lo eglarash cherefoseu. Il transgresse un verset de Michelet. D'accord ? Donc on avait expliqué qu'en réalité, on n'a pas l'habitude de parler de Michelet. Michelet, c'est les proverbes du roi Salomon. D'accord ? Donc c'est des proverbes moraux. Bon, alors ça s'étudie parce que c'est une morale simple, quoi. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça comme un interdit. D'accord ? C'est pas Michelet qui exprime des interdits. Les interdits sont dans la Torah. Donc ça sous-entend qu'en réalité, ce type de... Non, pas seulement que c'est Kadosh, mais plus que ça. Enfin, c'est un peu différent. C'est qu'en réalité, pour que Michelet exprime un interdit, c'est que c'est une idée qui transpire de la Torah, mais que le roi Salomon a mis en valeur dans ses textes. D'accord ? Parce que le roi Salomon, avec toute la grandeur du roi Salomon, il ne peut pas créer un interdit. On peut créer des interdits rabbiniques. D'accord ? C'est le rôle des Chachamim, ils ont des interdits rabbiniques. Mais ici, ça a l'air d'être un interdit un peu plus grave, et donc ça sous-entend qu'il y a des choses dans la Torah qu'on sent, d'accord ? Il faut avoir l'oreille pour les écouter. Le roi Salomon, il l'a mis en valeur dans ce texte-là, d'accord ?
C'est quoi
Michelet ? Michelet, c'est les proverbes du roi Salomon. Les proverbes, d'accord ? Et donc, on avait déjà parlé de ce sujet-là, qui est un sujet très important, qui est que dans la Torah... C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, il y a le texte de la Torah, il y a les 613 commandements, etc. Mais au-delà de ça, il y a ce que la Torah veut nous faire passer comme message. C'est-à-dire l'enseignement de la Torah, il ne s'arrête pas juste au commandement. Derrière le commandement, il y a une idée. Vous vous rappelez, on avait parlé, il y a un très bel enseignement qui illustre ça. C'est que, vous vous rappelez l'histoire de l'esclave qui veut rester esclave ? On lui poinçonne l'oreille, d'accord ? Parce qu'au bout de 7 ans, il doit partir, et s'il veut rester esclave, on lui poinçonne l'oreille. Alors, Rachid, il dit, pourquoi on lui poinçonne l'oreille ? Parce qu'on lui dit, cette oreille qui est entendue dans les 10 commandements, tu ne voleras pas, et qui est allée voler, et qui se plaît maintenant dans son statut d'esclave, c'est comme si son oreille n'avait pas bien entendu. Ça, c'est l'explication de Rachid, qu'on a l'habitude. Or, la question qu'on a peut-être pas avec vous, mais qui est simple, c'est que dans les 10 commandements ne sont inscrits que des interdits très forts. L'interdit de l'otignovu, c'est-à-dire le 8e commandement, ne désigne pas le vol, il désigne le rapt, le kidnapping. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que les interdits des commandements, c'est des commandements qui sont punis de mort. C'est-à-dire c'est le meurtre, l'inceste ou l'adultère, et le vol, pas le vol, c'est l'interdit du rapt. Donc la question qui se pose, c'est comment on peut reprocher à quelqu'un en lui disant, mais comment, tu as écouté les 10 commandements et tu es allé voler? Mais ça va, on ne parle pas de ça dans les 10 commandements. Vous comprenez? Donc en réalité, ça sous-entend que les 10 commandements, comme il le dit d'ailleurs Rav Sadia Gaon, il y a tout là-dedans. Simplement, il faut savoir le développer. Toutes les lois de la Torah sont inscrites dans les 10 commandements. Et le Rav Sadia Gaon, ce qu'on fait, ce qu'on dit à Shavuot, là, les Asra Kelmet sont traduits en arabe, etc. Il a fait ce travail-là, d'arriver à développer à partir des 10 commandements les 613. Ça signifie que quoi ? Qu'on ne doit pas s'arrêter à la lettre. Il y a un esprit, il y a une idée qui est véhiculée par chaque commandement. D'accord ? Et donc, je reviens à mon verset, ce que dit la Guémara, c'est que se moquer d'un mort, d'accord ? Alors, donc, j'ai été un peu vite, mais qu'est-ce qu'on a dit ? On avait déjà fait ça. Que quand tu vas dans un cimetière avec des tzitzit, avec des tchilines, avec un sefer Torah, quelque part, tu méprises le mort. D'accord ? Voilà, parce que lui, il ne peut plus faire et ça t'arrive en faisant le malin. Et ça, eh ben, qu'est-ce qu'il y a ? On n'a jamais vu ça. Ce n'est pas marqué dans la Torah. Il a fallu trouver un verset dans Michelet qui exprime ça. Mais en réalité, cette idée-là, quand on cherche, on la trouve dans la Torah au travers d'histoires, au travers de textes, d'autres mitzvot. On doit pouvoir redécouvrir cet enseignement de Michelet. Vous comprenez ? Donc en fait, Michelet n'a pas inventé le Issour. Michelet a exprimé quelque chose qui est un enseignement de la Torah. C'est dans l'esprit de la Torah de ne pas se moquer de quelqu'un qui n'a pas la puissance de le faire. C'est clair ça? Très bien. Donc, qu'est-ce qui est interdit? C'est de rentrer dans un cimetière avec des tfilines ou un Sefer Torah. Ok? Allez, c'est à notre époque, bon, on avait parlé de ça, parce qu'à l'époque, ils avaient les tfilines toute la journée, vous vous rappelez de ça?
Oui.
À notre époque, on n'a plus les tfilines toute la journée. Voilà, on n'a plus les tfilines toute la journée. Par contre, on a des talits de katane, on a des tzitzit. Et donc, quand on rentre dans un cimetière, on doit rentrer les tzitzit. D'accord? Donc, en réalité, c'est vrai que le mort, il sait que j'ai des tzitzit. C'est vrai que le mort, il sait que j'étudie. Mais je ne mets pas en avant ça. D'accord? Donc, et on avait expliqué que c'est la même chose. Il y a une forme de délicatesse, une forme de finesse qu'un homme il doit avoir. Ça fait partie des midot. D'accord? Et le travail des midot, c'est quelque chose qui n'est pas toujours enseigné. D'accord? Le travail personnel sur soi. Le respect de l'autre, le respect du handicap de l'autre, la finesse vis-à-vis de l'autre, etc. Et donc, c'est ça qui dit ce passage-là. Mais, d'un autre côté, ce qui nous intéresse aussi dans notre démarche, c'est qu'on voit de là qu'on peut se moquer d'un mort. Et donc, que le mort a une sensibilité. C'est ça, vous voyez, c'est ça qu'on veut essayer. Dans plusieurs pages, on va voir ça. Tout le monde n'accepte pas ça. Mais, il y a une différente forme. En tout cas, c'est certain que dans l'esprit de la Torah, le mort, il n'y a que le corps qui est dans la tombe. L'âme, elle est encore là. La question, personne ne discute de ça. Ça s'appelle l'éternité de l'âme qui est là, puisque c'est une étincelle divine et c'est ça qui va donner la réincarnation, etc. Mais la question, elle est de savoir si tout le monde accepte l'éternité de l'âme, est-ce que l'âme, elle continue à avoir une relation avec nous? Est-ce qu'elle sait ce qui se passe? Est-ce qu'elle sent les choses? Ok? Donc c'est ça qui va être le sujet d'une discussion. Tout le monde n'est pas d'accord. On va le voir dans la suite de la Gemara, qu'il y en a qui disent, mais non, une fois que la personne est morte, elle ne sent plus rien à faire de ce qui se passe. Un peu les Avdil, quelqu'un qui ferait sa Alia, il s'en fiche de Grenoble après. D'accord? Tant qu'il est là, il s'occupe de Grenoble, les Guéguerres, les Ciel et ça. Mais une fois qu'il a fait la Alia, ça ne l'intéresse plus. Vous pouvez vous entretuer, ça ne m'intéresse plus. D'accord? Alors, la même chose. Un mort, d'accord? Ça ne l'intéresse plus. C'est plus ses problématiques, les guéguerres des humains. Il a une autre dimension. Mais, si on. Alors. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que je vais expliquer qu'on peut comprendre les choses de deux manières. Soit qu'en réalité, on admet que le mort, il s'en fiche. Mais c'est pour nous. C'est-à-dire qu'on doit préserver la finesse. D'accord? Imaginez par exemple que vous avez un type qui est en fauteuil roulant. On ne va pas courir à côté de lui. Mais s'il est aveugle, est-ce que j'ai le droit de courir à côté de lui?
Il entend quand même.
Non, il n'entend pas. Il est aveugle et sourd. Il est aveugle et sourd. Est-ce que j'ai le droit de courir à côté de lui? Alors, en réalité, si on voit juste l'impact que ça a sur lui, ça n'a aucun impact. Ouais, c'est pas ce qui se passe. Mais par contre, pour moi, j'abîme quelque chose. D'accord? C'est-à-dire, toute proportion gardée. Moi, j'abîme quelque chose que je ne fais pas attention au handicap de l'autre. Donc, à ce titre-là, même si lui, il n'est pas conscient, je dois, moi, faire attention. La même chose tout de suite. La même chose quand on rend visite à un malade, qu'un malade qui est dans le coma ou n'importe quoi. Il y a une finesse qu'on doit garder, d'accord? Même si lui, il est dans le coma, il s'en fiche que tu lèves la couverture, que tu ci, que tu ça, il s'en fiche. Non, c'est pas pour lui, c'est pour moi, d'accord? Donc, si on va dans cet esprit-là, on n'a pas de preuve de cette Guémara que les morts sentent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il y a deux manières de voir les choses. Soit, on dit oui, les morts, ils sentent, tu ne dois pas te moquer d'eux. Soit on dit non, les morts ils sentent rien, mais tu ne dois pas toi te moquer, toi tu ne dois pas accueillir ce sentiment d'ironie, de moquerie de l'autre, d'accord? Mais on va voir dans la suite que l'Agmara va montrer et prouver que oui les morts ils sentent, oui les morts ils ont une relation, d'accord? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on continue à aller dans les cimetières, qu'on continue à faire des tfilotes dans les cimetières, etc., qu'il y a une interaction. Après le niveau d'interaction, ça on va le voir, d'accord? Jusque là c'est bon, je t'écoute Meir.
J'ai plusieurs choses à dire, mais il y a une partie où vous avez déjà répondu. Par rapport au fait qu'en parlant des morts, vous avez dit interaction ou pas interaction. Et moi, entre guillemets, je trouve un niveau intermédiaire. Ils peuvent peut-être eux, oui, s'en fichent, comme vous avez dit, une fois que je suis parti en Israël, je m'en fous de la guerre à l'autre, mais avoir quand même une interaction dans le sens, comme on a expliqué quelquefois, par exemple, quelqu'un qui a offert des livres dans une synagogue ou du matériel pour Talmud Torah, etc. Une fois que la personne elle a quitté ce monde, peut-être qu'elle, elle s'en fiche vis-à-vis de ce qui se passe dans ce monde-là, mais qu'il y a quand même une interaction par rapport au mérite de ce qu'elle a donné pour les bouquins ou les meubles.
Oui, mais c'est pas le même problème. Non. Attention. C'est un sujet différent. Oui. Le mérite, même si quelqu'un il est mort depuis tellement de temps, même s'il n'a plus rien à voir, mais dans le ciel, on comptabilise.
Oui, mais lui, le mérite, il peut continuer à augmenter.
Oui, mais ce n'est pas le sujet. Je comprends, mais ce n'est pas le sujet. Il est possible que les morts n'aient aucun rapport avec nous, qu'ils s'en fichent de ce qui se passe, mais lui, Hachem, il tient les comptes. Ouais. Et donc, il dit, voilà, monsieur, vous avez fait ça, vous avez fait un enfant, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc on vous donne chaque année, vous avez un bénéfice, des points en plus, pour imaginer les choses. Mais c'est pas notre sujet. C'est certain que les morts, ils continuent d'avoir la rétribution de leurs bonnes ou de leurs mauvaises actions qu'ils ont entraînées. Mais notre sujet à nous, il est plus pointu. C'est de savoir, est-ce qu'ils savent ce qui se passe? Est-ce qu'ils interviennent? Est-ce qu'ils, ça les intéresse ce qui se passe? C'est ça qui nous intéresse.
Et par rapport à l'exemple que vous donniez pour la personne qui est aveugle et sourde, il y a encore une autre dimension à laquelle j'ai pensé. Si à la rigueur, moi je suis tout seul avec la personne qui est aveugle et sourde, comme vous dites, bon, moi j'avais pas pensé au fait, comme vous dites, ce que moi je pense par rapport à la personne, mais le problème c'est que si moi je cours, etc., tout ça et tout, mais que moi je suis pas tout seul avec la personne qui est aveugle et sourde, ça veut dire que l'image que moi je vais donner vis-à-vis des autres, de ce que eux ils vont penser.
Tu as raison, mais si tu veux, pour raisonner sur un problème, tu as raison, il faut limiter le problème, parce que si, effectivement, si tu mets une troisième personne, alors ça rajoute une problématique. On enlève la troisième personne et on voit, est-ce qu'il y a une problématique quand il n'y a que moi et l'handicapé, quand il n'y a que moi et le mort. Tu vois, pour être, il faut avoir une problématique pure, en enlevant tous les détails, pour savoir est-ce que oui ou non il y a un problème. D'accord? Donc, en tout cas, le pshat pashut, c'est-à-dire le sens littéral de cette Gemara, c'est que oui, on ne peut pas se moquer d'un mort, comme de toute personne qui n'a pas les capacités d'agir. D'accord? Très bien. Donc ça, on va voir après. On avance. Tano Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné. Amolir atzamot mimakom lemakom. Vous êtes bon? Celui qui déplace des ossements d'un endroit à un autre. Alors maintenant, on n'a plus l'habitude de le faire, sauf quand on transfère des corps en Israël. Mais quand on le fait, on transporte dans un cercueil, c'est ça, c'est plombé, c'est zingué. Il n'y a pas cette problématique. Avant, les gens, ils mouraient n'importe où, ils étaient enterrés n'importe où, et on faisait des déterrements à l'arrache. C'est-à-dire, on prenait ce qui reste. Quand on trouve un corps, par exemple, il y avait des gens qui mouraient dans la forêt, tout seul, ben, tu récupères ce que tu peux récupérer, tu mets dans un sac, oui, et puis tu ne te préoccupes pas du reste, c'est tout, et d'accord, ça va tout se mélanger, mais je fais ce que je peux, et je transporte ça, d'accord. Il y a une histoire qui s'est passée... au début, enfin il y a peut-être 50 ans, 60 ans, où il y avait quelqu'un qui avait transporté des corps, parce qu'il devait déterrer des cimetières en Italie, il y avait des rabbinim et tout là-dedans, il a été clandestinement, il a récupéré les corps, il a mis dans des sacs, et il a mis dans des valises, c'était à l'époque où il n'y avait pas de douane et tout ça, et il a transporté les ossements dans des sacs, dans ses valises, jusqu'en Israël pour les enterrer. Alors vous allez me dire, ah mais c'est pas le kavod, oui, le problème c'est que c'est plus kavod ça que de laisser mettre à la benne. Parce qu'ils construisaient une route. D'accord ? Donc, à l'époque de la Guémara, ça se faisait. On récupérait les ossements. Quand, surtout quand le corps était, quand ça faisait longtemps, on mettait dans des sacs et on transférait. Et c'est d'ailleurs l'occasion de dire que ce jour-là, c'est un jour de deuil. Si quelqu'un il a l'occasion de déterrer des parents pour les amener, ou des grands-parents pour les grands-parents, non, parce qu'il n'y a pas de deuil pour les grands-parents, mais des parents, c'est considéré comme un jour de deuil. Comme le jour de l'enterrement, avec toutes les halachot qui vont avec, le fait pas de mitzvot, etc.
On l'a fait pour Eli Cohen.
Voilà, d'accord.
Donc, ça peut se faire qu'en Israël, c'est pas à tour de transférer d'un endroit à un autre, non. Quand c'est pas à l'autre.
Dans le fils d'Israël, non.
C'est à... Je dis, c'est la question que je pose. En vérité, même en Israël, il y en a qui disent, touche pas. Dans la mesure où le mort, il est tranquille, qu'il n'y a pas de problème, qu'on va embêter les cimetières, en général, on ne touche pas. Comme il dit le Midrash, qu'une fois il y avait deux Chachamim qui étaient à l'entrée d'Israël, et puis ils ont vu une caravane avec des cercueils. Alors ils ont dit, c'est tout ce que vous êtes venu faire, mettre de l'impureté en Israël, amener des morts. Il fallait venir quand vous étiez vivant, le discours de l'agence juive.
On a besoin des vivants.
Il a dit, c'est marqué dans le Midrash. Ils ont dit, mais c'est vivant qu'il fallait amener tous ces gens-là. Là, vous nous amenez de l'impureté en Eretz Israël. D'accord, bon, alors peut-être c'est un peu moqueur, mais ça signifie qu'il n'y a pas l'obligation à tout prix d'emmener les gens en Israël s'ils sont tranquilles. D'accord, il y a des cimetières en Alsace, des cimetières en France, on a le droit, dans la mesure où, par exemple, en France, maintenant, c'est devenu de plus en plus dur d'avoir des concessions permanentes.
Il n'y a plus de concessions.
Voilà, enfin, il n'y a plus les nouvelles. Les anciennes perpétuelles restent perpétuelles.
À Échirol.
Voilà. Mais on ne sait pas jusqu'à quand, ils peuvent changer.
Oui,
parce que,
oui. Aujourd'hui, c'est perpétuel.
Voilà. Grenoble, non.
Non, voilà.
Déjà,
donc,
non.
Donc ça, ça pose...
49 ans, non.
Voilà, 50 ans.
50 ans, je pense.
Oui, tu peux arriver à 50 ans. Ils avaient dit, avant, il n'y avait que 10 ans.
Tu peux demander 50 ans.
Tu peux demander 50 ans, mais ouais. Ceux qui sont déjà enterrés là, ouais. Ils ne sont pas là pour 50 ans.
D'accord.
Si tu ne renouvelles pas maintenant...
Donc après, je pose la question de laisser ses parents, ses oncles, les tantes, mais après, c'est des sommes. Ça veut dire que tu peux faire ça, quelqu'un peut faire ça à son père, sa mère, ça coûte 30 000 euros. Mais si tu as tes cousins, les cousins, les oncles, les tantes, tu vas pas te ruiner pour transporter des morts. Donc après, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut.
On s'est renseigné pour Échirol, perpétuel.
Ouais. Voilà.
Ouais. Et pour Grenoble, non.
Voilà.
Il faut à nouveau... repayer une concession.
Ouais.
Pour...
Ouais. Donc, en tout cas...
Ma question, c'est est-ce qu'on peut le mettre de Grenoble à Lyon?
Oui. Si c'est une protection, c'est-à-dire que si tu sais, et ça coûtera moins cher que d'emmener en Israël, à Lyon, c'est un cimetière juif qui ne bougera jamais, c'est pas perpétuité, ça te coûtera bien moins. Non, il n'y a pas de problème, parce que c'est pour protéger le mort. Il y a une mitzvah de protéger le mort. Il y a un kavod qu'on doit aux morts. Indépendamment de tout ce qu'on va discuter maintenant sur la sensibilité du mort, mais il y a un kavod de protéger les os. Par contre, tous les rachamim que tu as en Pologne, en Syrie, ça, pour l'instant, c'est calme. On les laisse, quoi. Ils sont tranquilles. Il y a des rachamim un peu partout dans le monde. On protège les cimetières. C'est une obligation
comme
de protéger les cimetières. Voilà. Rabbi Nachman, tous ces trucs-là. Mais
les âmes des défunts, elles ne sont pas attachées au corps.
Exactement.
Et à ses restes.
Oui, oui.
Alors,
mais
on pourrait dire un vieux fémur, etc. On s'en fout complètement.
C'est juste. Mais dans la Torah, d'abord, on a le respect de toute partie du corps. Pourquoi ? Parce que ce corps-là, d'accord, c'est lui qui a permis à cet homme-là, c'est grâce à ce corps qu'il a pu exister, qu'il a pu faire des mitzvot. Donc on a le respect du keli, le respect de l'objet. C'est marqué une fois, je crois que c'est Rabbi Dogour, avant de mourir, il était quelques jours avant, il a dit « je veux faire une grande souda et je veux boire de l'alcool ». Alors il a dit « c'est pas l'habitude du rave, c'est quoi cette histoire-là ? Il était vieux, etc. » Il a dit « non, je vais vous expliquer ». Il dit « ce corps-là, ça fait des années qu'il m'aide ». Et je l'ai toujours maltraité. Voilà, bah, la fille-là, fait comme ci, fait comme ça, fait des jeûnes. Je vais lui faire plaisir avant de mourir. D'accord ? Je vais boire un coup et faire un bon repas pour son corps. C'est-à-dire qu'il y a un amour de l'homme pour son corps, dans la mesure où ce corps-là, c'est lui qui t'a aidé, c'est lui qui t'a fait progresser. Ce corps-là, c'est lui qui supporte toutes les passions. Et c'est grâce à ce corps-là que tu as lutté contre tout ça et que tu es devenu ce que tu es devenu. L'âme, elle est kadosh. D'accord ? Le corps, lui, c'est le support de toutes les passions. C'est le support du Yetzerara. Mais l'âme, elle n'a pas de Yetzerara. Elle n'a le Yetzerara que quand elle est liée avec le corps.
Je dirais que c'est un peu comme les objets dont tu parlais la semaine dernière.
Oui.
Où tu disais, on ne doit pas se séparer d'un objet.
Oui, oui. Lieu, oui. Et c'est exactement la même chose.
Ben, c'est la même chose.
Oui.
C'est la même
chose.
De ton grand-père, de ton arrière-grand-mère.
Oui. Oui. Parce que c'est ce corps-là qui a permis à l'homme de progresser, de devenir quelqu'un.
Est-ce qu'on ne mettrait pas dans une...
Alors, tu as raison, mais on a un respect de l'intégrité du corps. Tant qu'on peut. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, mais tant qu'il y a l'intégrité du corps, tant qu'il y a quelque chose, on le respecte. Tu vois bien ce qu'ils font, Zaka. Ils récupèrent les bouts de chair, ils récupèrent le sang, etc. Il y a un respect total du corps du défunt.
D'accord ? On a du souci à se faire pour...
Non, de toujours, ça a été comme ça.
Non, je veux dire... un attentat.
Oui, mais de toujours. De toujours. Je vous ai raconté l'histoire de l'infirmière en Sibérie.
Non.
Ah, je l'ai raconté. Il y a quelques années, il y a un juif de Russie qui a pu... C'était à l'époque, il y avait encore le rideau de fer. Il y avait un juif de Russie qui a pu échapper. D'accord. Il était en Sibérie, il avait été emprisonné pendant je ne sais pas combien d'années. Là-bas, c'était terrible. Combien de juifs sont morts là-bas? On ne sait plus, nous, mais ils ont tué des millions de leurs et des millions de juifs. Il y a un juif de Sibérie qui a pu partir, Et il est arrivé en Eretz Israël. Et il a demandé de rencontrer le Rav de la ville où il est arrivé. Il a dit, voilà, j'ai une demande. Il dit quoi ? Et il sort de sa poche un mouchoir. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, je vais vous expliquer. Ça fait 20 ans que je suis en Sibérie, là-bas. Et l'infirmière du camp dans lequel j'étais, c'est une juive. Une juive très éloignée, mais c'est une juive. Et elle a appris que j'allais être libéré. D'accord ? Et elle savait que, comme j'étais un peu religieux, j'allais en Israël. Elle est venue me voir, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais emmener quelque chose pour moi en Israël ? Il a dit oui. Alors elle est partie dans l'infirmerie, elle est revenue avec un mouchoir plein de sang, elle s'était coupé un doigt, l'infirmière, et elle lui a donné le doigt dans un mouchoir. Elle a dit, moi, je vais mourir ici, je n'aurai pas ta chance. Je serai enterré en Sibérie, personne, on va m'oublier. Il dit, j'aimerais qu'il y ait un petit morceau de moi qui soit enterré en Israël. Elle s'est coupé un doigt, elle l'a donné au bonhomme. Elle lui a dit, je voudrais que tu m'amènes ce doigt avec toi, que tu l'enterres en Israël. Tu vois, bon, c'est un peu tristouné comme histoire. Mais, ça montre l'importance d'enterrer même un petit morceau. Donc, ils ont fait un enterrement pour le petit bout du doigt.
Et tout au moment des pays où on est parti
On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Si on peut, par l'intermédiaire du consistoire ou d'amis, eh ben on fait. À Flalo, là, j'avais entendu qu'il avait fait renouveler les cimetières, nous oui. Aussi en Tunisie, etc. Ce qu'on peut faire en Algérie, ce qu'on peut faire, on doit faire. Après, on peut pas.
Non, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des terrains pour tracer des routes, pour éclairer les quartiers.
Alors, si on peut faire déplacer les corps, on le fait. En Afrique du Nord, ça s'est fait. Même à l'époque où les Juifs ils étaient encore là-bas, des fois, ils voulaient déplacer, etc. Parce que avec l'agrandissement des villes, les cimetières qui étaient en bordure de ville, ils se trouvent en centre-ville. Et donc, même maintenant, même en France, beaucoup d'endroits, c'est des cimetières. Dans les villes du Sud, que vous ayez à Carcassonne, à Montpellier ou n'importe où, eh ben, on sait qu'il y avait un cimetière, puisqu'il y a l'église. Les églises de 300, 400 ans, elles sont là. Et à côté de l'église, il y avait le cimetière. Toujours. Le cimetière juif. Il y avait un petit village. Pour différentes raisons, c'était le bout de la ville, et il y avait le cimetière à côté. Donc on sait que chaque fois qu'il y a une église du Moyen-Âge, il y a le cimetière juif. Mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est tout dallé, c'est tout en dessous. Alors des fois, on découvre des trucs comme ça. Mais bon, on n'en fait pas. Et c'est comme ça, parce que c'était le bout de la ville. C'était l'église qui marquait le bout de la ville, qui l'entrée de la ville. Et comme les Juifs, on leur interdisait d'être enterrés dans la ville, ils étaient en dehors de la ville, donc à côté de... Ok ?
On a une idée du temps au bout duquel il n'y a finalement plus rien ?
Eh bien, ça dépend. Ah, oui. Ça dépend de beaucoup de choses. D'après la Gemara, ça dépend si c'est un tzadik ou pas. D'accord ? Que les tzadikim, ça pourrit pas. Ça, c'est une chose. Mais indépendamment de ça, techniquement, suivant la qualité du sol, si par exemple au Sablon, en 10 ans, c'est mort, il n'y a plus rien, parce que c'est tellement mouillé, tellement humide, que ça pourrit à toute vitesse. Donc il ne reste plus grand-chose, sauf si tu as des cercueils zingués. Mais il y a des endroits où c'est sec, ça reste 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu sors le corps, il est nickel. Il y a les os, il n'y a plus la chair. Mais le squelette, il est intact. On sait qu'on a déterré des chachamim, ils ont déterré des chachamim de le Chida. Le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il était enterré en Italie, je crois, à Livourne. Et ils l'ont déterré, ils l'ont ramené au cimetière de Givat Shaul, et il est enterré à côté de Rav Mordechai Eliyahu là-bas, à côté du Rav Sharabi. Et quand ils l'ont déterré, ils ont fait avec tout le kavod, etc. Il y a encore des témoignages, le corps était intact.
Combien de temps après ?
200 ans. Mais intact, c'est-à-dire qu'il y avait le squelette, parce que il est, après, je ne sais pas s'il est plus que le squelette, je ne peux pas vous le dire, je ne dirais pas, mais en tout cas, il était intact parce que c'était des conditions de conservation. Oui. Ben, quand ils trouvent des cercueils il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, oui. Eux ils disent 3 milliards d'années.
Ah oui, les momies et tout ça.
Ouais, mais ça existe. Ok ? C'est bon ? On a répondu à toutes les questions ?
C'est le problème de Yosef qui n'a pas voulu être enterré en Égypte et qui a demandé qu'on ramène pour le conserver a été embaumé. Je me trompe pas.
Ouais, c'est un embaumement extérieur, pas un embaumement intérieur. Oui. Voilà, c'est un embaumement, il est entouré de cire, un truc comme ça pour conserver le corps. On est bon ?
On est bon.
Tanou Rabanan. Bon, ça nous permet de parler de beaucoup de choses. Tanou Rabanan. Amolir Atsamot. Celui qui déplace des ossements, mimakom le makom, d'un endroit à l'autre, pour des raisons techniques. Arezé loitnem bediskia. D'accord ? Il ne doit pas les mettre dans le sac de l'âne. Ça veut dire qu'il faut essayer de les respecter. Vous savez, le sac de l'âne, Diskia, c'est la contraction de doux sac. D'où, c'est deux. Sac, c'est un sac. Deux sacs, dans le, comment on appelle ça, les deux sacs qui sont de chaque côté de l'âne.
Les sacoches.
Les sacoches. Les sacoches, comme dans le vélo, comme dans l'âne. Ouais. Eh bien, deux doubles sacoches, ça fait 10 kia. C'est une double sacoche. D'accord ? Où on mettait tout. Alors, il dit, tu dois essayer de ne pas mettre les ossements là-dedans, parce que ce n'est pas kavod. Tu dois essayer de les mettre le plus respectueusement possible. D'accord ? Et les mettre sur l'âne, birka la valéem, et t'asseoir dessus. Parce que quand tu vas les mettre, d'accord, sur les côtés de l'âne, tu vas avoir tes pieds là-dessus, c'est pas kavod. Alors c'est vrai que c'est des ossements, mais il faut essayer de respecter les ossements. Il y a un kavod aux morts. Et il y a toujours cette ambiguïté de compréhension. Est-ce que c'est mon kavod ou le kavod du mort? D'accord, il faut toujours avoir les deux. C'est pas contradictoire, il y a les deux en même temps. Ok? Mipne shenoeg baem minag mizayon. Parce que, on méprise les eaux, et donc quelque part on méprise ce mort-là. Une honte, tu fais honte au mort. Maintenant, si tu avais peur, ça veut dire si tu sais, par exemple, il y a la douane, il y a des goïms qui vont t'embêter, etc. Omipne listim à cause des brigands qui risquent de lui voler. Moutard, c'est moutard, on a le droit de s'asseoir sur le corps de son père, d'accord, si c'est pour le protéger. Ok, derer shamru ba'atzamot. Et comme on a dit pour les ossements, car Amroub et Sefer Torah, on a dit pareil pour un Sefer Torah, avec tout le respect qu'on fait au Sefer Torah, qu'on jeûne quand il tombe, mais s'il y a besoin de protéger le Sefer Torah, tu le mets dans ton pantalon. À l'époque de la guerre, pour sauver des Sefer Torah quand ils pouvaient, ils étaient entourés le corps du Sefer Torah. Ils faisaient un gros patapouf, d'accord? Ils se mettaient torse nu, en slip, ils prenaient le Sefer Torah, ils le roulaient, ils enlevaient les bâtons,
dans la droite. Et
ils se le roulaient autour du corps. Ils remettaient une djellaba ou je sais pas quoi, pendant la guerre, ça. Et ils se trimballaient avec tant qu'ils pouvaient. Il y a plein d'histoires comme ça de Sefer Torah qu'ils ont essayé de sauver. Parce que les Allemands, dès qu'ils arrivaient dans une ville, ils brûlaient les Sefer Torah, ils les découpaient, ils faisaient des godasses avec, ils savaient que c'était pour
c'est
nous.
Vrai?
Oui, c'est certain.
Mais on a
il y a...
Mais aucun respect des
on a à Grenoble quelqu'un qui a ramené un Sefer Torah de Tunisie camouflé dans un stock d'oranges.
Voilà, voilà. Il y a plein. En tout cas, pendant la guerre, c'était ça.
Dans un stock d'orange.
Ah ouais, d'accord.
Donc on voit que si, que ça soit le mort ou que ça soit le Sefer Torah, si c'est pour le protéger, y a pas de, on n'a pas à craindre son bisayon. Voilà, ok. Après, oui, il y a d'ailleurs une histoire qui s'est posée dans plusieurs périodes. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça s'est posé quand ils ont libéré, enfin, qu'ils ont évacué le Gouche Katif. Ça s'est posé pour les synagogues. Mais ça se posait souvent pendant la guerre ou pendant l'Inquisition. Ça c'est pour les bâtiments. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit partir avec les Sefer Torah? On sait que si on les laisse, ils vont les brûler, ils vont les casser, ils vont les jeter. Est-ce qu'on les brûle nous?
Non.
Oui. Ou on les laisse les brûler eux?
Non. Tu les
parce que eux, ils vont s'en servir. Eux, ils vont s'en servir de papier toilette.
Si tu ne peux pas.
Tu dois t'en aller. Qu'est-ce qu'on fait avant? Est-ce qu'on les détruit, nous, avec kavod, ou on les laisse faire ce qu'ils veulent?
C'est toujours mieux que si nous, on les détruit, nous, avec kavod, que si eux, ils le font sans kavod.
Pourquoi c'est toujours mieux? Qui t'a dit ça?
Je vais vous expliquer pourquoi. Comme on a dit tout à l'heure, par exemple, quand on transfère un corps d'un endroit à un autre, parce que nous, entre guillemets, on va le faire dans les règles de l'art, alors que les autres, quand ils vont le faire, comme on l'a dit là,
oui.
En humiliant et en...
Attends, le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est est-ce que je... Il y a pas, tu peux pas le récupérer. C'est soit moi je le brûle,
oui.
Soit lui il le brûle.
Oui, mais
donc alors je t'explique.
Quand je vais le brûler, moi je vais le brûler avec certains
oui.
Dégâts, certains honneurs, certains cas.
Non, brûler alors, c'est brûler. Alors, non, alors, non, parce que il vaut peut-être mieux. Il vaut peut-être mieux le laisser faire plutôt que toi d'être actif sur ces 23. Pourquoi toi tu vas le brûler? Tu peux rien faire. Tu laisses la nature aller, qu'est-ce que je prends? Je ne vais pas me battre. Il va le brûler, tant pis, ils payeront. Mais moi, je ne vais pas moins brûler à Sefer Torah. C'est pas la même problématique que transporter le mort.
Avec toujours à la clé un espoir.
Oui, on va dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il y a eu un problème qui s'est passé, qu'un rave. Toutes ces questions-là, c'est exposé dans les shelot ou tchouvot, les responsables des rabbins. Il y a eu une fois où des juifs, ils avaient un Sefer Torah dans le bateau. Et ils ont vu arriver un bateau de pirates, comme il y avait beaucoup à l'époque des bateaux de pirates. Ils savaient qu'ils leur prendraient tout. D'accord? Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait du Sefer Torah? Ils vont le balancer, ils vont le prendre pour faire n'importe quoi. Alors, la réponse du Rav, est-ce que je le jette moi à l'eau ou non? Il a dit non. Parce que le jeter moi à l'eau, pourquoi moi je vais être actif? Tu vois, c'est comme si c'est des problématiques un peu différentes. Est-ce que je laisse, est-ce que je me suicide ou je laisse les gens me torturer? Tu vois, c'est des problématiques qui sont constantes dans le peuple juif. Ça veut dire, tu n'es pas obligé de... Tu...
On a la réponse.
Attends.
On n'a pas le droit de se suicider.
Oui, mais...
On doit pas se dégrader.
Oui, mais il y a eu Massad avant.
Alors, bon, il y a plein d'histoires.
Je me remets de la bouche.
Là, on s'écarte un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'il vaut mieux, moi, détruire ce Sefer Torah avec les respects, ou bien les laisser s'en servir de papier toilette? Parce que eux, c'est ce qu'ils faisaient. Les Allemands, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des chaussures, ils faisaient du papier toilette, ils prenaient les Bibles, ils s'en servaient. On a toutes ces histoires-là. On a les Sefer Torah qu'ils ont méprisés. Et le Rav, il a dit non. Le faire, toi, non. Ce que tu fais, tu le mets sur la base fringue du bateau, d'accord? Et tu attends qu'il tombe. Voilà. Tu es pas, toi, actif. D'accord? Alors tu vas me dire, oui, c'est vrai, mais c'est toujours dans la même optique qu'on a dit tout à l'heure. C'est bien sûr que c'est la même chose.
Quand il y a les nazis qui te courent après.
Ah ben, tu fais rien, tu les laisses, tu fais rien du tout. Non, on parle pas de ces cas-là. On parle que j'ai encore 5 minutes, j'ai encore 10 minutes. Donc c'est par rapport à la question. Moi, je brûle pas le Sefer Torah. D'accord? C'est pas de ma faute, ils vont le brûler, qu'ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Maintenant, si j'ai encore un peu de temps, je peux le mettre dans la terre. Bien que c'est pas le lieu de Sefer Torah. Je peux le mettre dans la terre, j'essaie de le protéger.
Une mini-gnisa, quoi.
Voilà. Ou bien, voilà, une mini-gnisa. Ouais. Ou bien, il a dit, je le pose sur le bord du bateau, s'il tombe, il tombe. D'accord? Au moins, ça, ils le mépriseront pas. Ok? Mais, si effectivement, tu as besoin de le mépriser, le Sefer Torah, entre guillemets, pour le protéger, il n'y a pas de problème. De t'asseoir dessus, de t'habiller avec, ok? Amar et Chava. Vous êtes bon? Amar et Chava, Amar Rabbi Yehuda. Il a dit, monsieur Chava, au nom de Rabbi Yehuda, Kol haroé et amet, tout celui qui voit un mort, venom et laveu, il ne l'accompagne pas, quand on dit qu'il le voit, c'est-à-dire qu'il est dans la rue, il y a une procession qui va au cimetière, et qui ne prend pas part, au moins un petit peu, pas à 10 kilomètres, mais au moins tu as convaincu Dieu. Au vert, il transgresse également. Mishum lo règle arrache, chéref oseou. À cause de cet interdit qu'a exprimé Shlomo, se moquer du pauvre, c'est blasphémer. Alors en fait, on avait expliqué ça. Chéref oseou, celui qui se moque d'un pauvre, ou d'une personne limitée, ou d'un handicapé, oui, ok, en fait, c'est vrai que c'est un grand péché, d'accord, en soi-même, humainement. Mais en réalité, il blasphème au Séou contre celui qui l'a fait. D'accord? Parce que se moquer d'une personne qui ne peut pas, qui ne peut pas voir, qui ne peut pas marcher, ou qui est pauvre, ou qui est ici, ou qui a n'importe quel problème, d'accord? Finalement, tu te moques de ça, tu te moques du patron qui l'a fait. Vous rappelez, c'est avec vous, quand on a fait l'Agmara, est-ce qu'il y a encore des survivants de l'Agmara Brachot? On avait fait, il y a une Agmara qui ramène qu'une fois Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, il revenait tout pimpant d'un chiour, enfin il avait étudié Monde des Merveilles, et puis il a rencontré un bonhomme dans la rue, d'accord, mais très très vilain. Alors il lui a dit, mais il y en a beaucoup que dans ta ville qui sont aussi vilains que ça. Mais, c'est bizarre parce que c'est Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, d'accord. Mais il avait perdu un peu la tête, perdu le sens de la réalité, tellement il était content d'avoir étudié. Alors il s'est retourné vers lui, il a dit, tu sais quoi, si tu as des problèmes avec mon aspect, adresse-toi à celui qui m'a fait. Il s'est rendu compte que là, il avait exagéré, il le courut derrière, il a dit, je demande pardon. Il a dit, jamais, je te accorderai jamais le pardon. Tu es un grand rave et tu me fais comme ça, débrouille-toi avec celui qui m'a créé. Et donc, finalement, ils allaient dans la même route. Et Rabbi Lazare, quand il est arrivé en ville, il y avait tout le monde qui arrivait à accueillir le grand rave. Et alors lui, celui qui était affreux, là, parce qu'il était vraiment bizarre, lui. Et il leur a dit, c'est ce rave-là que vous voulez accueillir? Il ne vaut rien du tout. Il vaut même pas vos applaudissements. Il leur a raconté. Alors Rabbi Lazare, il a supplié, il a dit, je t'en prie. Alors finalement, bon, ils se sont entendus. Rabbi Lazar, il a exprimé, il a dit qu'il a baissé sa vie à regretter cette mauvaise parole. D'accord? Donc, c'est ça qu'en réalité, c'est ce que là, se moquer du pauvre ou se moquer de l'handicapé, c'est blasphémer contre celui qui l'a fait. Et donc, ici aussi, elle dit la Gemara, quelqu'un qui voit un mort et qui ne l'accompagne pas, c'est aussi un blasphème. Alors, pourquoi c'est un blasphème de ne pas accompagner un mort? Pourquoi on n'accompagnerait pas un mort? Voilà. On ne parle pas que tu es occupé, que tu as des rendez-vous. On parle que tu te balades et que tu vois. D'accord ? Il y a une obligation au moins de faire 4 pas avec. Enfin, de faire 20 km. Je ne suis pas obligé de faire jusqu'à l'eau cimetière. Mais au moins de faire un peu. Alors, dans les commentateurs, ils disent parce qu'en réalité, ça rejoint ce qu'on a dit. C'est finalement imaginer que bon, ça va, il est mort, il ne sent plus rien. Hein, qu'on s'en fiche de lui, ça ne le dérange pas. D'accord ? Et de toute manière, au-delà de ça, que même si je fais un effort pour lui, il ne me le rendra jamais. C'est fini. Il est mort. Tu vois ? Oui. Ben, ça va tout dans ce sens. C'est ce que je te dis. Tout doucement, la Gemara, petit coup de pinceau par petit coup de pinceau, elle est en train de nous décrire la sensibilité du mort. Ouais. Tu comprends ? C'est ça qu'on voit. Voilà. C'est ce qu'on est en train de voir. Alors pour l'instant, on imagine, on trouve des autres solutions, mais ça a l'air d'être ça. D'accord ? Oui.
Moi, j'ai trouvé une explication qui est encore beaucoup plus forte.
Ah, que la Gemara.
Non, par rapport au fait que ne pas lui faire de kavod, je vais vous expliquer ce que je viens de
dire. Tu as le droit, ouais.
Si on ne fait pas comme vous avez dit, le minimum de kavod, j'allais dire, pas vital, mais syndical, là, quand on a les moyens, le temps de le faire, etc. Ça veut dire que encore plus loin, parce que nous, par définition, les êtres vivants et pas HM, on est limité par le temps, on a un début, un milieu et une fin, je parle d'un point de vue corporel, d'un point de vue de l'âme. Donc, ça veut dire que, implicitement et de façon sous-jacente, si on ne fait pas ce minimum, pas vital, mais syndical, ça veut dire qu'on est en désaccord avec ça, et qui est-ce qui a fait que nous, les êtres vivants, on a un début, un milieu, une fin? C'est HM, et donc ça veut dire qu'implicitement, on ne reconnaît pas que HM, lui, il est en dehors de tout ça, au-dessus du temps.
J'entends. Mais quel rapport avec accompagner le mort ? Je reconnais qu'HM est au-dessus du temps, mais c'est pas pour ça que je vais accompagner un mort. D'accord, il est mort, c'est bon, c'est fini.
Qu'est-ce qui fait que nous, on est limité par le temps ? C'est HM. Donc,
non, mais on est d'accord. Mais pourquoi ça m'oblige à accompagner le mort ?
Alors voilà, parce que quand moi j'accompagne le mort, je reconnais que c'est bien HM qui a fait ça, et que donc, entre guillemets, j'avale et je donne la prouve, et quand je ne le fais pas, donc ça veut dire que je ne l'approuve pas. Donc ça veut dire, de façon implicite, c'est comme si je remettais en question que lui, HM, est au-dessus du temps.
Je comprends. Parce que lui, j'entends, nous a fait limiter au temps. Mais on peut voir les choses différemment. Moi, je reconnais HM, il est au-dessus du temps, mais ça y est, maintenant la personne est morte, c'est fini, on passe à autre chose. Tu peux très bien imaginer, je ne vais pas passer mon temps à faire les cimetières et accompagner les morts.
Non,
mais ce n'est pas pour ça que je ne connais pas HM.
Ça te présente à toi, c'est face à ça, bon. Et tu le renies.
Je comprends, si ça te parle, alors c'est bien. Alors, il me demande, mais Emile va où ? Et si j'ai accompagné le mort, Masraro, vous êtes bon ? C'est bon, toi ?
Oui, oui.
Ah, t'es bien réveillé, les morts, ça te réveille.
Ah non, oui. Et je sors le linge, je l'ai reçu beau.
Mais non. Vimilvao. Vimilvao. Et si je l'ai accompagné, Masraro, quel est le salaire d'accompagner un mort à Maravasi? Parce que finalement, le mort, c'est fini, puisque le plus grand chesed qu'on puisse faire, c'est avec un mort, parce qu'il n'y a rien à attendre en retour. Hein. Il est mort, il ne va pas venir ni merci, ni autre chose. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, comment on appelle le chesed qu'on fait avec les morts? Chesed Shalemet, la bonté de vérité. D'accord, c'est ce qu'il y a de plus pur, s'occuper des morts, que ce soit à la chébra, que ce soit à l'enterrement, etc. C'est une mitzvah parce que c'est pur, t'attends rien.
Alors,
c'est vrai qu'il y a toujours la famille. C'est faussé parce qu'il y a la famille, il y a la société qui te dit oh là là, monsieur Ben Kemoun, vous êtes dans la chébra, c'est beau ça, c'est beau ça. Et la famille qui dit merci beaucoup. Mais le vrai recette, c'est celui qui n'a pas de famille, rien du tout, et quand même tu te fatigues, etc. En tout cas, la Gemara dit d'accord, mais quel est le salaire ? Amar Rabati, Allah va mère. Sur cette personne-là, la Torah, elle dit, le pasouk, Malvé Hachem Chonendal. Il prête à Hachem celui qui a pitié du pauvre. Quelqu'un qui a pitié du pauvre, d'accord ? Donc, quel que soit le type de pauvre, que ce soit l'hyper pauvre comme le mort, ou que ce soit le pauvre standard qui ne pourra pas te rembourser, en fait, tu prêtes à Hachem. Prêter à un pauvre, c'est prêter à Hachem. Parce qu'Hachem, lui, il s'occupera de rembourser les dettes que le pauvre ne peut pas te rembourser. D'accord ? Tu as le droit de ne pas être d'accord sur tout.
Non,
c'est ouvert.
Je peux expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord.
Allez, vas-y. C'est un lieu d'expression ici. Vas-y. Attends, sur quoi tu n'es pas d'accord ? Que quand on aide un pauvre, HM il rembourse, tu n'es pas d'accord là-dessus ?
On prête à HM. Déjà, tu ne peux pas prêter à HM parce que.
Non, mais c'est une expression, l'argile. Non, mais tu ne t'accroches pas aux mots. C'est une expression. Toi, tu as prêté au pauvre. D'accord ? Alors, le pauvre il va pas te rendre. Bah, alors on te dit, sorti. Alors voilà. Pauvre, donc c'est comme si tu as prêté à Hachem, lui il va te rendre. Ça t'es d'accord?
C'est Hachem qui donne tout, tu peux pas aller prêter à Hachem.
Bon d'accord, tu peux être un peu d'accord. Alors, malgré Hachem Khonenda. C'est bon? Umechabdo, et celui qui l'honore, pardon, Umechabdo, et on honore Hachem Khonen Evion quand on a pitié de Evion du nécessiteux. D'accord, vous avez deux mots, le dal et le evion. La différence entre dal et evion, dal c'est comme la dalle, c'est au ras du sol, c'est vraiment l'hyperpole. Le evion, c'est les bonnes traductions, c'est nécessiteux, ceux qui a besoin de quelque chose. D'accord, c'est-à-dire que on peut être riche et être nécessiteux. On a besoin d'affection, on a besoin d'une course en voiture, on a besoin. Des fois, un riche, il a besoin de quelque chose. Il y a des gens qui sont riches et qui ont besoin qu'on leur prête parce que tout est investi. Comme l'Agmara a dit, l'Agmara elle parle de. Vous rigolez, mais c'est vrai. Il y a des fois des situations où vous avez quelqu'un qui est très riche, il se trouve dans une situation très délicate parce que tout est investi. D'accord? Et ça s'appelle Evion. Il est nécessiteux pour l'instant.
C'est provisoire.
Ouais, ça existe. Bon, très bien. Très bien, on avance.
On doit une question à tout le monde?
Oui. C'est-à-dire tout le monde?
Bah, tous les juifs, enfin.
Ah oui.
Même le plus pourri des pourris.
Ah oui.
Parce que j'ai ouï dire que par exemple, s'il y a des choses qu'on n'a pas respectées, on ne pourra pas être enterré, on va dire entre guillemets, voilà, par exemple si on a un tatouage, des choses comme
ça. Où t'as vu ça? Non. Ça n'existe pas ça.
Ah
ben, t'énerve
pas.
Ah non, je te dis tout de suite, ça n'existe pas.
Les tatouages,
c'est plein.
C'est pour ça qu'il s'est mis loin.
Non, mais à part ça, tu peux en avoir. On peut être tatoué de partout et être un grand sadique. Et être enterré avec les grands rabbanim.
Ah ouais.
C'est assourd de faire un tatouage, on est d'accord. Et souvent les gens, ils ont fait des tatouages, après ils se sont rendus compte, ils ont pris conscience, il n'y a pas de problème.
En Israël, il y a beaucoup.
En Israël, il y a plein de gens très religieux qui ont des tatouages, et ils les portent avec grande fierté, je vous ai raconté.
Ouais. Des bêtes, hein, comme ça, derrière.
Des religieux avec des papillotes comme ça, ils en ont plein le dos, plein les bras. Mais ils étaient, avant, ils n'étaient pas religieux.
Et dans le
je vous ai raconté qu'il y a, écoute-moi, une Sheila qu'ils ont demandé à Rav Weiss. Bon, ce soir, on s'amuse un peu, on digresse, hein. C'est pas grave, on est contre nous. Rav Weiss, c'est un des grands poskim, en Eretz Israël, Rav Asher Weiss, c'est un des grands poskim modernes. C'est une dame qui lui a demandé la question, c'était une brésilienne. Et vous savez, vous avez déjà vu des goïms qui se font tatouer des lettres en hébreu? Il y en a plein, c'est très
drôle.
Hier, une, elle avait tatoué là, Kabbalah. Kabbalah. Mais il y en a plein qui en hébreu, des fois c'est n'importe quoi.
Mais des fois c'est ça.
Une femme au Brésil, elle s'est fait tatouer le nom de Dieu sur le talon, enfin sur le mollet. Yud et Vav et le nom de Dieu. Pas d'accord? Parce que elle a trouvé ça, c'est la Kabbale, c'est le truc de Kabbalah. Et maintenant elle fait tchouba. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand je déshabille, quand je vais me doucher, le nom de Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est honteux, monsieur le Rav. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever? Alors, vous allez me dire, parce qu'on peut enlever un tatouage. Si quelqu'un, ça le gêne. D'accord?
Mais
celui-là, t'as pas le droit parce que ça s'appelle effacer le nom de Dieu. Et on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Donc, c'est une situation alambiquée. D'accord? Alors, on l'étudiera. Je pose la question qui demande à des rabbins. Donc, ça existe. Mais sinon, il n'y a aucun problème de. Moi, personnellement, j'aime les tatouages. Je trouve ça très beau, très. Très puissant. La Torah l'a interdit. D'accord? Mais on peut aimer ce que la Torah interdit. Ça veut dire que, comme il dit le Rambam, rien ne t'oblige à dire que le cochon, c'est pas bon. Le cochon, c'est très bon, mais la Torah l'a interdit. Pas obligé de dire, ah, c'est dégoûtant. Les gens, ils disent, c'est dégoûtant, si tu veux. Mais peut-être que le cochon, c'est très bon. Peut-être que la viande, c'est très bon. Tout ça, c'est très bon, il n'y a pas de raison. Mais la Torah, elle me l'a interdit. Maintenant, le tatouage, d'accord? C'est vrai que quand nous, on a l'habitude, les tatouages, c'est. J'aime ma grand-mère, ou l'encre, ou le marin, vive la France, des trucs comme ça. Mais non, mais t'as des tatouages qui sont pleins de puissance, d'une puissance laisse-moi parler, après tu parles. Artistique, je ne parle pas de ça, artistique, je m'en fous de l'artistique, mais qui sont pleins d'une puissance émotionnelle, d'un message, d'accord, d'une attache, d'accord, quelqu'un, moi j'avais vu une femme, mère abandonnée. D'accord? Elle avait une fille. D'accord? C'était ses yeux, fille mère. D'accord? Elle s'est fait tatouer le visage de sa fille dans son dos. D'accord ? Il y en a, je vous avais raconté l'histoire de, je ne me rappelle plus, il faut que je le retrouve. Une histoire extraordinaire. Une fois, je fais une écho, un type, il se met torse nu, là, et il avait ici, en lettres gothiques, un nom, je crois que je me rappelle, Ben Kemoun, un truc comme ça, ou Ben Soussan, en lettres gothiques, comme ça, tout son ventre, comme ça. C'est ça choque, c'est bizarre, quoi. Alors, je fais écho, je dis, c'est quoi, ça ? Moi, je suis curieux, toujours, je demande. Je dis, c'est quoi, ça ? Il me dit, c'est le nom de mon père. Je dis, le nom de votre père, et pourquoi ? Il me dit, mon père, il est mort quand j'avais 4 ans. Et j'ai jamais supporté ça, que l'absence de mon père. Pour jamais l'oublier, je l'ai gravé sur mon ventre. C'est assaut, mais c'est d'une... Ça te tape là dans le ventre, tu comprends ? Il y a des tatouages qui tapent au ventre quand tu exprimes les... Quand tu interroges les gens, surtout... Et il y a ça. Alors, bien sûr, nous, on a l'habitude d'un tatouage, preuve d'amour entre pépettes, mais c'est pas tout... Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. C'est des choses... Ah, d'accord ? Ah ben non, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. La Torah l'interdit. Et on peut réfléchir pourquoi la Torah l'interdit. Parce que la Torah, elle est chachama. Alors, c'est vrai, on peut dire, oui, le respect du corps. Mais... D'accord, je respecte mon corps, mais si je veux respecter l'amour que j'ai, pourquoi je ne peux pas le tatouer ? C'est-à-dire, pour la Torah, il y a quelque chose qui doit aller au-delà. On doit pouvoir le garder incrusté dans son esprit, mais pas dans son corps. C'est pour la... D'accord ? Il y a une réflexion à avoir sur l'interdit du tatouage, et pas juste une idée de mépris. D'accord ?
Je vais vous raconter une anecdote.
Oui.
Il y a un peu plus de 60 ans, j'étais dans la marine.
Ah, je me rappelle. Allez, belle histoire.
Je décide de me faire tatouer une encre de marine, et comme ça, je ne sais pas m'a insufflé, avant de me faire tatouer, j'ai écrit à ma mère.
Au Maroc.
En lui disant, je vais me faire tatouer. Et... je passe peut-être une semaine, parce qu'il fallait que le temps que la lettre arrive. Et je me souviens, on était en mer, et le maître d'équipage me dit, Grably, dans le bureau du commandant, dans la cabine du commandant, il t'attend. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Alors je monte dans la cabine, je me mets au garde-vous, commandant. Il me dit, je viens de recevoir un télégramme.
Oui, à l'époque, les télégrammes...
Interdit de te faire tatouer. Signé maman.
C'est beau, hein ? Non, mais ça, c'est beau parce que c'est l'accent du tatouage qui est encore plus puissant que le tatouage.
Et je me suis jamais fait tatouer.
Tu m'étonnes.
Moi, je savais pas. Je savais absolument pas.
Allez, vous êtes bon ? On avance.
On avance.
Un petit mot. Rabbi Chia, Rabbi Yonatan.
Oh, je fais moi là ou là.
Tu en as ça ?
Non.
Ouais, il demande de mal faire.
Je décide. Si je fais un, après je fais Teshuvah, donc je suis pardonné.
Ah oui.
Non ?
On n'a pas le droit de faire une Avera en disant
ce que tu veux. Là, ils ne perdent pas. Non. Mes parents, toujours, ils m'ont dit jamais le tatouage. Jamais.
Allez, Rabbi Chia, Rabbi Yonatan, deux rabbins célèbres qu'on va voir après. Un, c'est Rabbi Chia, l'autre, c'est Rabbi Yonatan. Abou Shakle ve Azle. Ils discutaient en marchant. Bébet Akbarot dans le cimetière. Ah oui, après on revient. Avak Ashadia Techelte de Rabbi Yonatan. Il tombait Techelet, le fil bleu, le tzitzit. Puisqu'avant, à l'époque, les tzitzit, il y avait un fil bleu avec le chilazon de Rabbi Yochanan sur les tombes. Amar le Rabbi Chia. Alors Rabbi Chia, il lui a dit, Zaylé, lève ton tzitzit. On n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de le laisser dehors, d'accord ? Même ceux qui laissent les tzitzit dehors, d'accord ? Il y en a qui laissent les tzitzit dehors, il y en a qui les rentrent dedans, d'accord ? Chez les Sfaradim, on rentre les tzitzit, chez les Ashkenazim, souvent ils laissent les tzitzit dehors, chacun a son minhag. Mais eux, c'est pas seulement le talit katan, c'est qu'ils avaient leur djellaba était à quatre coins, donc ils avaient des tzitzit partout. Donc il a dit, il faut que tu les lèves. Pourquoi ? Kedesh lo yomru, pour pas qu'ils disent les morts, les machar, demain, baim etzlenu, ils vont venir avec nous. Mais Arshav est maintenant, mais Kharfim Otanu, il nous méprise. D'accord ? Donc, ici encore, on avance d'un cran, qu'on voit qu'il exprime que les morts, ils sentent. D'accord ? C'est pas par rapport à toi. S'il faut pas que les morts, ils se moquent de toi en disant, tu vois, ils nous méprisent parce qu'ils mettent mes titilles, mais demain, on sera tous là ensemble.
Non, mais là, ça va même plus loin, parce qu'ils disent que les morts, ils parlent entre eux. Donc, oui. Ça va même plus loin que
bon, après, tu peux dire simplement que c'est une expression, pour pas qu'ils ressentent ça, mais c'est vrai que c'est marqué qu'ils disent. Très bien. Alors, Amarle ! Alors, il lui a dit, Rabbi Yonatan, Umiyadei Kule, aïe, est-ce qu'ils savent tout ça ? Ah, la question qui tue. C'est, qu'est-ce que tu me racontes ? On voit que Rabbi Yonatan, il était encore un novice. D'accord ? Pour différentes raisons. C'est-à-dire que Rabbi Yonatan, lui, il a pour principe que les morts, une fois qu'ils sont morts, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc quand son copain, il le dit, lève tes titres, il a dit, mais qu'est-ce que ça peut leur faire ? Ils sont morts. Est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils voient que moi, mon titre, il est sur la tombe ? Est-ce qu'ils voient le mort que je marche sur la tombe ? Moi, je marche sur les côtés. Est-ce qu'ils voient ? Est-ce qu'ils sentent tout ça ? Il dit, vais active. Hein ?
J'ai dit, c'est pas parce que toi, tu les vois pas, qu'eux, ils te voient pas.
Vais active. Il dit, non. C'est marqué dans le Kohelet. Vais ametim, enam yodei meouma. Les morts, ils savent rien du tout. Il y a un verset dans Kohelet, l'Ecclésiaste, qui dit, ametim, enam yodei meouma. Les morts, ils savent rien. Donc voilà, j'ai un verset qui prouve. Rabbi Yonatan, il dit, qui prouve que tout ce que tu me dis, c'est des fadaises. Shlomo Ameler, il a dit, les morts, ils comprennent rien. Enam yodei meouma. Vous l'avez ce verset ? Là. Là, oui. Meouma. D'accord ? Je suis 2/4 lui.
Enam yodei meouma.
Ah, donc ça se complique. Est-ce que les morts, ils savent ou ils savent ? Amar, alors son copain, Rabbi Chia, il lui a répondu, il lui a dit, attends. Imkarita, si tu as lu le verset, Loshanita, tu ne l'as pas répété. Veimshanita, et si tu l'as répété, Loshilashta, tu ne l'as pas triplé. Veimshilashta, et si tu as triplé sa lecture, Lopirshulecha. On ne t'a jamais expliqué le sens de ce verset. Parce que c'est un verset dans Kohelet qu'il faut savoir retraduire sur la notion de vivant et la notion de mort.
Ah, ça devient intéressant.
Voilà. Le verset, il dit comme ça. Qui a chaim yodim sheyamutu ve'ametim lo yodim meuma. Je vois la suite le verset en in extenso. Vous avez le début du verset. La fin du verset, c'est ce qu'il a cité. Lui, il a dit, c'est marqué dans Kohelet, ametim lo yodim meuma. Les morts, ils savent rien. Et le début du verset, il dit, qui a chaim yodim sheyamutu. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Donc, a priori, quand tu lis le verset, d'accord? C'est un verset simple. Ça veut dire qu'un vivant, d'accord, il a conscience de la finitude. Il a conscience qu'il va mourir. Achaim, yodim shamutu. Les vivants, ils savent. Et les morts, ve'ametim, lo yodim meuma. Ils savent rien du tout. Bon, ils savent rien du tout quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Alors, Rabbi Yonatan, il a dit, ouais, c'est simple. Les vivants, ils ont conscience d'un futur de la mort. Mais les morts, c'est fini, ils sont déconnectés. Donc, ils s'en fichent. Voilà. Rabbi Chia, il a dit, non, t'as rien compris. Moi, je vais t'expliquer ce que veut dire ce verset. En réalité, la notion de vie et de mort, c'est une notion relative. Dans la Torah, les tzadikim, ceux qui œuvrent pour se rapprocher d'Hachem, ils sont vivants tout le temps. Même après la mort, ils s'appellent chayim, ils s'appellent vivants. Par contre, les gens qui s'en fichent de leur monde spirituel, même de leur vivant, ils s'appellent morts. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en réalité, on parle la notion de vivant et de mort. Bien sûr que le corps, il est vivant. Mais la même chose, par exemple, quand quelqu'un il a une maladie, on dit, ou un arbre, la branche est morte. L'arbre, il est vivant, mais la branche est morte. La même chose dans un corps. Il y a des parties du corps ou de l'âme qui sont vivantes et d'autres parties qui sont mortes, elles sont inutilisées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens chez qui leur monde spirituel, il est mort, il n'existe pas. Ils n'ont pas de monde spirituel. Ils ont un monde matériel, ils ont un monde de la consommation, un monde de la vie physique, biologique, mais ils ont leur vie spirituelle, elle est morte. Et donc dans cette... Alors que les tzadikim, ils sont vraiment vivants, mais même après la mort, leur partie spirituelle, elle reste encore vivante, elle reste encore active, et ça, on va reprendre ça. Donc en réalité, il faut s'habituer à ça, que souvent le terme de vivant et de mort, c'est un terme ambigu, et que les tzadikim morts, on les appelle vivants, c'est pour ça qu'un cimetière, une des raisons pour lesquelles on appelle Beit HaChaim, la maison des vivants, parce que ces gens, ils continuent à vivre leur vie spirituelle, alors que les gens qui n'ont pas de vie spirituelle de leur vivant, on les appelle des morts vivants, dans le langage des Chachamim. Donc Rabbi Chia, il lui dit, alors je vais t'expliquer le sens de ce verset pour pas qu'il soit trivial. parce que la traduction littérale du verset en fait un enseignement trivial. Je vous le répète in extenso, les vivants savent qu'ils vont mourir et les morts ne savent rien. Bon, ça apporte pas grand-chose. Par contre, retraduit par Rabbi Chia, il te dit les vivants, c'est-à-dire les tzadikim, ils savent qu'ils vont mourir et donc ils savent que plus tard, ils n'auront plus l'accès aux mitzvot et donc ils se dépêchent d'accomplir des mitzvot. Vehametim, par contre, les morts, qui c'est? Les morts vivants, ceux qui n'ont pas de vie spirituelle, et Namiodimiuma, eux, ils ne savent rien du tout, puisqu'ils n'ont pas la conscience qu'il y a des comptes à rendre, donc ils n'ont pas la conscience d'une finitude. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Ici, on parle des morts et des vivants. Vivants. Il y a les morts vivants et les vivants vivants. Et la différence entre les deux, c'est avoir conscience de la finitude, de se dire, il faut que je remplisse ma vie, il faut que je charge mes jours, jour après jour. Le mardi, je le charge, mais comment je charge le mercredi? D'accord? Qu'est-ce que je fais de mon jeudi? Qu'est-ce que je fais de mon vendredi? Et on doit cocher, d'accord? Comme il disait Avraham Avinu, comme ils font les tzadikim. Les tzadikim, c'est ça qu'ils font. Ils ont un petit carnet. Chaque jour, comme ils font les scouts, les avdils. Quel BA j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de bien de ma journée? Pas obligé d'avoir des choses grandiloquentes, mais voilà, j'ai fait cette chose bien, j'ai fait cet effort, etc. Oui? Et donc, c'est ça que Rabbi Chia, il a reproché à Rabbi Yonatan. Il a dit, tu as une lecture trop superficielle de ces versets de Qohelet. En fait, il y a une lecture plus profonde qui parle de la conscience de la finitude. Mais les morts, bien sûr qu'ils ont conscience. Donc, il y a Chaim Yodim chez Amoutou, les vivants savent qu'ils vont mourir, et nous, tzadikim, ça parle des tzadikim, chez Bemitatam, Grouim Chaim, que les tzadikim, même quand ils sont morts, on les appelle des gens qui sont encore vivants. Ils ont encore une vie, et ça, on va voir après. Et donc, ils ont une vie, ils ont une conscience, et ils ont une continuité. D'accord? Que les tzadikim, en réalité, même après la mort, ils ont une progression. C'est ce qu'on va voir. Mais on va s'arrêter là. Parce qu'après, chez Neymar, la Gemara va citer des psukim. On va comprendre quelle est la vie post-mortem. On va voir ça après. Ok? On va chercher un. C'est comme ça.
Et moi, j'ai toujours entendu dire, si tu ne vas pas au funérailles.